De la prière. On veut regarder encore des versets qui nous parlent de la prière dans un aspect qu'on n'a pas encore parlé, des présenter des prières ferventes par des supplications. On va voir un peu c'est quoi supplier en regardant certains passages. Tu sais, des fois, on est habitué d'une manière de prier, mais vous allez voir que prier avec supplication, c'est comme si on tombe en deuxième vitesse dans la prière. Il y a une profondeur, il y a encore plus que juste prier pour demander. Le Seigneur veut nous faire aller plus profondément dans la prière. Là, je pose une question de même, ceux qui ont eu des enfants adolescents, puis même des un petit peu plus jeunes, là, vous savez comment est-ce que les enfants, comment est-ce qu'ils veulent avoir de quoi? Des fois, ils peuvent être très harcelants. Achaler, puis l'a demandé, puis là, ils tirent tes culottes, puis là, ils veulent de quoi, puis tu sais, puis il y en a qui vont aller jusqu'à quand ils sont plus jeunes, surtout, là, tu es dans le centre d'achat, tu vois le petit qui crie, puis qui garoche les affaires, puis il se roule à terre, puis il fait la tranche de bacon à terre, parce qu'il va avoir ce qu'il veut. Il veut avoir ce qu'il veut, puis il met de la pression pour montrer qu'il en veut. Puis, il se relâche pas à se rouler, puis à crier, puis à demander, puis à chialer, jusqu'à temps que la mère, elle ne sait plus quoi faire, puis elle finit par y donner. Ça, c'est de la supplication, mais ça va jusqu'à où? C'est sûr que Dieu ne nous demande pas de se rouler à terre jusqu'à ce point-là, mais il y en a qui l'ont fait semblable. Savez-vous que le Seigneur, lui, est à l'écoute des supplications? Puis là, on va voir un exemple dans ça du monde qui ont fait des supplications au Seigneur. Pas juste demander, ils ont supplié, ils ont achalé, puis ils ont mis des arguments pour pouvoir obtenir une requête de prière à quelqu'un qui ne devait pas obtenir. Parce qu'au départ, ce gars-là, c'est un non-juif. Puis Jésus l'a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'était pas venu pour les païens, il est venu pour les juifs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'exauçait pas les gens non-juifs. Dans Luc au chapitre 7, le verset 2, ça dit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications. Ils n'ont pas juste demandé, « Hey, Jésus, ça ne tentera pas d'exaucer ce gars-là. » Ils n'ont pas juste demandé. Ils savaient que Jésus l'avait déjà dit, que « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais là, c'était quand même ces anciens des Juifs-là, qui étaient des pharisiens, probablement. C'était déjà du monde, t'as pas trop sûr qu'ils étaient pour être exaucés d'avance, parce que Jésus les a déjà blastés, les pharisiens, puis les religieux. Mais ce gars-là avait une influence, il avait comme un lien d'amitié avec ces Juifs-là. Il était aimé par ce centenier romain-là, par les Juifs, parce qu'il avait aidé les Juifs. Ça le dit dans le verset un petit peu plus loin. En disant, il suppliait Jésus en disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Ce gars-là, il était un romain, païen, mais il aimait le peuple juif. Puis il avait fait bâtir la synagogue. C'est un gars qui avait le cœur pour Jésus. Là, il entend parler de Jésus, puis lui, il n'a pas douté que Jésus pourrait guérir son enfant. Mais il ne se sentait pas à l'aise d'aller voir Jésus lui-même, parce que c'est un païen. Fait que là, il a parlé au chef religieux, puis il a demandé au chef religieux d'aller voir Jésus. Puis les chefs religieux, ils ont fait d'instance. Ça dit d'instante supplication. Ils ont supplié Jésus. Il voulait tellement que ce gars-là puisse recevoir sa bénédiction, parce que ce gars-là, il était un gars qui aimait les Juifs, puis les Juifs l'aimaient. Fait qu'en ayant une bonne relation, ils sont allés devant Jésus, puis là, ils sont mis à supplier. Il mérite que tu lui accordes ça. C'est pas parce qu'il mérite, non. Tu sais, en le suppliant, là, c'est que tu t'humilies, là, puis tu demandes avec instance. Tu veux qu'il l'obtienne, puis tu lâches pas. Puis là, Jésus, finalement, il l'a accordé. Puis ça, je ne l'ai pas écrit, mais il y a l'autre exemple aussi, la femme qui était syro-phénicienne d'origine, sa fille était malade, puis elle a été supplier Jésus, puis Jésus, il dit, pas bon de donner le pain, puis le donner au petit chien. Puis elle s'est humiliée encore plus, elle a dit, oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du riche. Puis là, Jésus a considéré qu'elle avait une grande foi, parce qu'elle était capable de s'humilier, puis d'insister, puis de réinsister. Même si elle se fait avoir un refus, elle leur demande encore pour obtenir, parce qu'elle veut obtenir. C'était pas juste une prière qu'on demande et qu'on oublie. Elle voulait être exaucée. Puis c'est ça qui fait toute la différence pour supplier, avec les prières qui est différente, juste prier pour demander. Selon le dictionnaire Strong, là, le mot supplier, là, c'est de vouloir. Quand tu manques de quelque chose, là, puis tu n'as de besoin, là, tu désires, tu languis pour obtenir cette chose-là. C'est pas juste que si tu l'as, c'est correct, si tu l'as pas, c'est pas grave. Non, tu languis, tu as besoin de ça, c'est absolument, tu peux pas penser de pas l'avoir. Tu le désires, tu le veux, tu ne parles pas de posséder un char neuf, mais pour des besoins comme la guérison de quelqu'un ou la délivrance. C'est mendier, ça va dans le sens de mendier. Quêter à Dieu, le supplier, là, t'es à genoux devant lui, puis tu mendies comme si tu serais inquiéteux. C'est ça qui est le sens de supplier dans les supplications. Les supplications démontrent une grande foi. Puis ça démontre aussi que tu as une conviction de ce que tu veux. C'est pas juste demander. C'est comme un deuxième niveau de prière. C'est des prières plus profondes que juste demander. C'est l'inverse que de prier à le ventre plein. Tu sais, quand tu pries, tu n'as même pas faim. Tu viens de manger, tu as le ventre plein. Tu penses-tu vraiment à ton prochain repas, puis à vouloir même demander pour ton prochain repas quand tu ressens aucun besoin intérieurement? Tu te sens déjà bien plein, bien comblé. Tu penses pas à dire, « Oh ben là, Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi mon autre repas. » Tu as déjà le ventre plein, tu y penses même pas. C'est quand tu as faim que là, tu n'as rien à manger, là tu peux supplier. Mais supplier, c'est ça qui est l'idée. Tu as faim. Tu as vu, là, tu en as besoin. Ça met quelque chose de plus en dedans qu'on n'a pas juste quand on a le ventre plein. C'est comme prier avec un intérêt, contrairement à des fois on peut faire des prières, mais sans intérêt, sans besoin. C'est juste comme des caprices ou du over ou du luxe. Quand tu es au point de mendier pour vouloir quelque chose parce que tu en as besoin. La Bible nous dit que nous pouvons faire des supplications pour nos propres besoins. Ça le dit dans la phrase, pour des besoins. Dans Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Ce que tu as vraiment besoin. » T'as-tu besoin d'une délivrance? T'as-tu besoin d'une guérison? T'as-tu besoin de régler des problèmes financiers? T'as-tu des besoins au niveau de ton couple? Des besoins avec tes enfants? Quand t'as des besoins d'un travail, il dit de faire connaître, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Supplier Dieu quand on a un besoin. Mendier, quêter, là, achaler pour obtenir ce besoin-là. Dieu, il apprécie, avec des actions de grâce, bien sûr. Mais Dieu apprécie, puis voit la foi là-dedans. Dieu veut que nous fassions monter des supplications aussi pour tous les hommes. Pas juste pour nos propres besoins. Souvent, on prie beaucoup pour nos besoins. mais on ne sent pas vraiment à prier pour quelqu'un parce que lui a le besoin. Comme le gars de la synagogue, le centenier, son fils était malade. Ils ont intercédé pour lui en allant voir Jésus parce qu'il en avait besoin, c'est son fils, puis ce gars-là, il aimait le peuple juif, puis il a besoin d'une guérison pour son fils. Fait qu'il est entre les deux, ces pharisiens-là ou ces docteurs de la loi-là. Il est entre les deux, puis ils ont intercédé en suppliant Jésus pour que l'autre puisse obtenir. C'est un peu ça aussi, faire des supplications pour les autres. C'est ça que ça nous dit aussi dans un verset, dans 1 Timothée 2:1. Ça dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, puis des actions de grâce pour tous les hommes. » Ça veut dire, il faut que tu te mettes dans la peau des autres, même s'ils ne sont pas sauvés, leurs besoins à eux, ça sera quoi? Puis de commencer à supplier, pas juste pour ce qu'on aime, mais supplier aussi pour les affaires des autres, surtout pour leur salut, bien entendu, parce que ça le dit dans le même paragraphe, ça dit, « Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça veut dire, pensons à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, puis demandons-le avec intensité aussi pour l'autre. Même le Saint-Esprit peut nous conduire dans des supplications, parce que nous, on a la prière avec l'intelligence, on comprend le besoin, puis on se met à prier, mais le Saint-Esprit peut aussi conduire à faire des supplications, c'est ce que ça dit dans Éphésiens 6, 18. Ça dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » C'est un mot-là, supplication, on y pense pas assez. Comme dans ce verset-là, on pense toujours prier, mais il y a aussi supplier pour obtenir. Dans plein de versets, ça dit « Veillez à cela qu'une entière persévérance, puis priez pour tous les saints ». Ça veut dire, le Saint-Esprit, c'est dans sa volonté de nous conduire à supplier pour les autres aussi. Les prières... Quand on le sait, on l'a déjà dit dans une autre étude, mais les prières présentées avec ferveur, ils sont écoutées. Comme c'était dit dans Jacques 5:16, confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que soyez guéris. Puis ça dit de quelle façon qu'on devrait prier les uns pour les autres. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire, plus qu'on met de l'intensité quand on prie, Dieu voit notre cœur, puis il voit si on est intéressé ou désintéressé dans notre requête. On peut faire une belle longue prière avec aucun intérêt dans notre cœur. On peut faire des longues prières aussi vraiment parce qu'on l'a à cœur, parce qu'on se met dans la peau de l'autre, puis on le sait que c'est ceux qui en ont besoin. On prie pour leurs besoins, on prie pour leur salut. Puis Dieu, il dit que ça, c'est bien efficace. Puis quand il dit les prières ferventes, là, c'est le mot « énergio ». C'est le mot qui a donné « énergie » en français. Une prière fervente, c'est une prière avec de l'énergie, de l'intensité. Tu sais, c'est pas juste. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Tu sais, tu fais que réciter, c'est de la récitation, capable d'en faire, de la récitation, mais avec énergie, c'est avec... Tu mets ton cœur, ton âme est dedans, puis tu veux la faire. C'est ça qui est une prière fervente puis au niveau des supplications. Jésus, il a présenté des supplications avec ferveur, lui aussi. Mais c'était Jésus, puis lui-ci, il a supplié. Dans Hébreux 5:7, ça nous dit, c'est lui, en parlant de Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, il criait, quand pas crier des bêtises, là, il criait en supplication, criait à Dieu qui avait besoin d'aide. Jésus criait pour obtenir que de son Père. Mahantouedon, Il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Ça veut dire qu'il est intense quand il priait Jésus. Il désirait vraiment obtenir. C'était pas juste comme des récitations de prières. Il priait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Puis il a été exaucé à cause de sa piété. Le mot piété, là, c'est d'être pieux. Être une personne pieuse, c'est une personne qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui aime Dieu, qui veut louer Dieu, qui a un cœur pour Dieu. Mais lui, il dit, il a été exaucé à cause qu'il était un gars qui aimait Dieu, Jésus. À cause de sa piété. Puis sa piété était démontrée avec de prier avec instance, puis en suppliant, puis en criant dans ses prières. Il a appris, en parlant de Jésus, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Fait que, comme qu'on a vu dans les prophéties la semaine passée, ben en fin de semaine, les prophéties d'Isaïe, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Fait que, dans ses souffrances, ça le dit dans, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire, Dieu, il l'a fait souffrir exprès pour qu'il apprenne à obéir. C'est un exemple pour les chrétiens. On devra penser à voir les sentiments qui est en Jésus. C'est pas juste le sentiment de joie et de paix. C'est le sentiment du cœur à persévérer, à obéir malgré les souffrances. Puis à demander à Dieu avec supplication d'être secouru de la mort en criant à Dieu pour obtenir ce secours-là. Même si c'était prophétisé dans la Bible qu'il était pour ressusciter. C'était prophétisé, il s'était écrit qu'il ressusciterait puis il régnerait éternellement. Il a intercédé pour être secouru quand même dans sa mort. C'est extraordinaire quand tu penses à ça. Son état de concentration à Jésus quand il priait était tellement intense, là, que quand il s'est mis à prier intensément, il s'est mis à suer du sang. Fait qu'à part de crier puis de supplier, c'était du sang qui sortait. Il était intense dans son intérieurement, dans son désir de vouloir obtenir une guérison ou sortir vivant de ce qu'il était en train de vivre dans le jardin de Gethsémané. Une angoisse, mon âme est triste à la mort. Puis là, il priait, il demandait à ses disciples, il était en train de mourir d'angoisse là dans le jardin avant d'arriver à la croix. Il a prié de son Père, c'est sa volonté d'éloigner cette coupe. C'était pas la coupe de la croix, il savait qu'il fallait qu'il y aille. C'était celle-là qu'il était en train de vivre, il était en train de mourir là. C'est là qu'il est exaucé, puis que Dieu l'a amené à donner la force d'être capable d'être obéissant jusqu'au bout dans ses souffrances. C'était pénible ce qu'il a vécu. On aurait peut-être lâché avant d'arriver à moitié chemin de ce qu'il a fait. Quand il dit qu'il était en agonie, dans Luc 22, 44, étant en agonie, il est en agonie, il est en train d'agoniser, là, il est en train de prier tellement fort qu'il est en train quasiment d'en mourir, là, il priait plus instamment. Il était déjà en ferveur, pas en grand cri, puis tout le kit, puis il a prié encore plus instamment, puis sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'agonie, là, c'était le mot grec que là, c'est une lutte pour la victoire. Ils disent que c'est le même sens que de l'exercice de gymnastique. Tu fais de l'exercice pour pouvoir être de plus en plus fort. Lui, son agonie, ça l'a amené à lutter, à résister. C'est comme s'il était en train de s'entraîner, mais en réalité, il s'entraînait pas. Il exerçait son temps de prière dans une intensité au max, comme si tu étais en train de suer à cause que tu cours. Mais lui, il suait parce qu'il est en train de prier. Il força au bout. Intérieurement, c'était des émotions et sévères luttes mentales que ça dit pour l'agonie. C'est de l'angoisse, de l'agonie, de l'anxiété puis de l'inquiétude. C'est les mots qui auraient pu être mis là aussi pour ce que lui est en train de vivre là, de moments de souffrance. Puis quand ça dit, il est en agonie, mais quand tu dis c'est instamment, c'est plus attentivement, plus il s'est mis à prier plus attentivement, plus sérieusement, plus sincèrement. Tu vois qu'il mettait tout son cœur dans son sujet de prière. À un moment donné, tu vois un exemple, tu vois des exemples, il y en a plusieurs endroits dans la Bible qui disent ça, ce qu'on va voir là, mais là j'en prends une, c'est l'exemple de la prière de Samuel pour le peuple. Dans 1 Samuel 7-9, Samuel prend un agneau de lait, puis il l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, puis l'Éternel exauça. Mais dans sa prière, il s'est mis à crier. Puis quand tu dis le mot crier dans l'original, dans l'hébreu, là, c'est crier. Crier, pousser des cris, puis s'écrier, puis implorer, convoquer, invoquer, appeler, se lamenter, se plaindre, mais il cria à l'Éternel. Puis je finis avec un dernier verset qui est une promesse de Dieu au niveau de la prière, dans le psaume 34, 17, ça dit, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, puis les délivre de toute leur détresse. » Souvent, peut-être, là, qu'on n'est pas exaucé parce qu'on n'a pas mis de cœur dans notre prière. On n'a pas vraiment crier pour obtenir. Crier avec ton âme puis ta bouche quand tu es devant Dieu pour demander, pour supplier, mettre plus d'intensité, plus d'attention dans ta prière, concentrer au bout. Puis il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Il voulait pas juste dire quand les justes prient, il dit quand les justes crient. L'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse.